Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Radio Campus Grenoble, 90.8. Adrien Beaujean.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 16h30 sur Radio Campus Grenoble, c'est l'heure de Microcité, votre émission hebdomadaire d'actualité. Et au sommaire aujourd'hui, le nouveau coronavirus, symptômes, gravité, traitement, comment gère-t-on l'épidémie chez nous? Des personnes infectées sont actuellement confinées dans des centres de vacances dans le sud de la France, on en parlera dans moins d'un quart d'heure avec Margot Siffert et son invité en studio. Depuis 60 ans, SOS Amitié écoute, sans jugement, les personnes en situation de détresse émotionnelle. Ce sera l'objet de notre long format en fin d'émission. Zoé Ruffy a rencontré des bénévoles de l'association à Grenoble. Vous êtes bien sur Radio Campus 90.8, on est ensemble jusqu'à 17h, Microcité épisode 12, c'est parti. Et on commence avec le journal de Paul Tillier. Bonjour Paul.
Bonjour Adrien, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, Nordal Lelandais, une nouvelle fois mis en garde à vue dans une affaire d'agression sexuelle sur une de ses cousines. On reviendra en détail sur cette affaire. Dernière ligne droite pour les inscriptions aux élections municipales. Vous avez jusqu'à ce soir minuit sur internet, mais vous pouvez aussi vous inscrire en mairie. Alors est-ce que c'est le rush à la mairie de Grenoble? Réponse dans ce journal. Le coronavirus, des conséquences graves sur la santé mais aussi sur les comportements. À Grenoble et partout en France, on constate une recrudescence des actes discriminatoires envers la communauté asiatique.
Nordal Lelandais, à nouveau en garde à vue depuis ce matin, Paul.
Oui, l'ancien militaire est entendu dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle sur mineurs. Le meurtrier présumé de la petite Maïlis et du caporal Arthur Noyer se trouve en ce moment dans les locaux d'une brigade de gendarmerie du Nord-Isère. Benoît Almeiras, bonjour.
Bonjour Paul.
Nordal Lelandais est visé par une plainte déposée par une de ses cousines.
Oui Paul, la victime présumée est âgée de 14 ans au moment des faits. L'agression se serait déroulée dans l'est de la France il y a un peu moins de 3 ans, le jour de l'enterrement du père de l'adolescente. Lelandais et sa cousine fument une cigarette à l'écart ce jour-là. L'ex-militaire aurait profité de ce moment pour prendre la jeune fille dans ses bras avant de toucher ses fesses et sa poitrine. L'adolescente se dégage et selon elle, l'ancien maître chien menace de la tuer si elle parle de l'incident. La jeune fille garde le silence pendant plus de 2 ans. Elle finit par porter plainte au printemps 2019, plusieurs mois après la mise en examen de Nordal Lelandais pour des agressions sexuelles sur 2 autres cousines, des faits commis à l'été 2017, quelques semaines avant le meurtre de la petite Maëlys à Pont-de-Beauvoisin en Isère.
Merci Benoît Almeiras pour ces précisions. 7 entreprises françaises dans le viseur du gouvernement, elles sont soupçonnées de discrimination à l'embauche. Parmi elles, Arkema, Renault ou encore Air France. Entre octobre 2018 et janvier 2019, le gouvernement organise une grande campagne de tests. 5300 CV fictifs sont envoyés dans plus de 40 entreprises. Ce qu'il en ressort, c'est qu'un candidat a 25% de chances en moins d'être embauché si son nom est à consonance maghrébine. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales avant les élections municipales. Près de 85 000 personnes sont inscrites à Grenoble. Cette année, la date limite a été repoussée jusqu'à 6 semaines avant le scrutin. On laisse un peu plus de temps aux électeurs pour leur faciliter la vie. Et Antoine Lastron, à la mairie de Grenoble, il y a toujours les adeptes de la dernière minute.
Au guichet, Farida, elle vient de déménager de Saint-Égrève à Grenoble. La date de la facture d'eau pose problème. Finalement, ça passe. Elle pourra voter aux prochaines municipales. Elle a profité du rallongement de la période d'inscription.
J'ai eu peur de ne pas pouvoir venir, mais il semblerait qu'on avait juste du temps là. J'arrive sur le fil, hein. On remet toujours à demain. Mais bon, dernier sursaut de lucidité en me disant faut y aller.
Samuel, lui, vote d'habitude dans le village de ses parents en Savoie. Mais là, le début de la campagne l'a décidé à venir s'inscrire dans la ville où il habite.
Par rapport au débat qu'il peut y avoir entre les différents candidats, les différents points de vue et tout ça, dans la mesure où Grenoble commence à vraiment être une ville un peu importante et un peu porteur en tout cas d'idées à l'échelle nationale.
Cette semaine, en 3 jours, 900 personnes se sont inscrites. C'est autant que sur tout le mois de janvier. Le rush la dernière semaine, c'est une habitude. Laurence Compara, adjointe au maire en charge de l'organisation des élections.
Il y a toujours un appel d'air un peu à la dernière minute. Il y a un effet médiatique. Quand on se met à parler de l'élection, les gens se posent la question « Ah mais est-ce que je vais bien pouvoir voter ?» vérifient et s'ils n'étaient pas inscrits ou inscrites, font la démarche.
Pour les services de la mairie, il reste encore les procurations à gérer. Elles peuvent être faites officiellement jusqu'à la veille du vote.
Oui, et le premier jour des élections municipales, c'est le 15 mars. D'ailleurs, un des thèmes majeurs dont on parlera à coup sûr lors de ces élections, c'est le vélo. Et à Grenoble, il a le vent en poupe. Un baromètre publié hier par la Fédération des usagers de la bicyclette place Grenoble en tête de son classement des villes françaises de taille moyenne. Les critères pris en compte sont la sécurité, l'accessibilité ou le confort. D'ici 2030, la mairie de Grenoble envisage de créer 100 km de pistes cyclables.
Apple signe un accord à l'amiable avec la répression des fraudes.
Oui, le géant de la téléphonie écope d'une amende de 25 millions d'euros mais échappe à un procès pour obsolescence programmée. Apple est sanctionné pour n'avoir pas prévenu ses usagers que des mises à jour pouvaient ralentir les vieux iPhones. Le groupe américain a rapidement réagi à l'annonce de la répression des fraudes et s'est dit heureux de cette issue. Nouveau bilan du coronavirus, 30 000 personnes infectées, 640 décès. Et parmi les victimes, une figure emblématique dans la prise de conscience des dangers de ce virus. Un médecin chinois qui était un des premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme en décembre. Il est décédé ce matin à l'âge de 34 ans. Autre conséquence de l'épidémie, mais cette fois en France, c'est l'augmentation des moqueries envers les personnes asiatiques. Julia Beaufils, ces comportements discriminatoires sont le reflet d'une tendance déjà existante.
En échange universitaire, Xie et Erika étudient la communication. La première est chinoise, l'autre japonaise, mais toutes les deux subissent des discriminations sur leur origine depuis le début de l'épidémie.
Hier, j'ai reçu la première insulte dans ma vie. Il a dit virus chinoise, donc voilà.
Il vous a traité de virus chinois?
Yeah.
Une première pour Xie, Erika, elle, c'est déjà la troisième fois. Pourtant, elle est japonaise et n'a jamais mis un pied en Chine.
La première fois, c'était les gamins qui sont venus en rigolant et m'a dit oh, virus, coronavirus. Mais après, le lendemain, j'ai eu une dame qui faisait, je ne sais pas comment dire en français, comme ça.
Elle se faisait un masque, elle se cachait le nez.
Oui, et qui nous regardait comme ça, ça m'a fait un peu peur.
Des discriminations d'autant plus visibles avec l'apparition du virus, selon Marie Séchasse, présidente de SOS Racisme Isère.
Donc il y a vraiment un mépris et une méconnaissance culturelle. C'est sûr que là, avec cette histoire de coronavirus, bah, c'est monté en flèche. C'est une excuse pour les gens de lâcher un peu plus leur racisme qui est toujours présent.
Alors selon cette militante, il faut bien se rappeler, un virus peut contaminer tout le monde, qu'importe la couleur de peau.
Et le coronavirus, ce sera le thème de notre dossier dans quelques minutes.
Manger trop gras, trop sucré ou trop salé, on le sait, ce n'est pas bien et ça coûtera bientôt plus cher. C'est en tout cas ce que souhaite la Banque mondiale. Dans un rapport publié hier, elle affirme sa volonté de taxer certains aliments jugés mauvais pour la santé. Sont notamment visés les pays pauvres et les pays en développement, plus touchés par le surpoids et l'obésité, qui font chaque année 4 millions de morts dans le monde.
Et pourtant, sur Twitter, ce n'est pas de ça dont on parle.
Non, en effet, ce qui fait sensation sur les réseaux sociaux, et c'est paradoxal, c'est le Sweetie con Nutella, avec l'accent en italien, que l'on appelle aussi le Mac Nutella, un nouveau sandwich de chez McDonald's qui est arrivé hier en Italie. Le Mac Nutella, c'est un mélange savoureux entre McDonald's et Nutella. Ça ressemble à l'autoroute du cholestérol et pourtant sur Twitter, ils sont nombreux à demander son arrivée en France. Le journal L'Équipe publie les salaires des joueurs de Ligue 1 et sans surprise, c'est Neymar qui est le mieux payé avec 3 millions d'euros par mois. Pour vous faire une idée, c'est un peu plus d'un euro par seconde. Sur le podium, le Brésilien est suivi de Kylian Mbappé avec près de 2 millions d'euros mensuels et Thiago Silva, 1,5 million d'euros. Le top 10 est intégralement composé de joueurs parisiens. On connaît depuis cet après-midi la composition du 15 de France de rugby pour le deuxième match du tournoi des 6 nations contre l'Italie. Au centre, Arthur Vincent remplace Virimi Vakatawa blessé au biceps. Coup d'envoi dimanche à 16h au Stade de France.
Et on vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres, Paul.
Microcité jusqu'à 17h.
16h38 sur Radio Campus Grenoble. Dans quelques instants, notre dossier de la semaine. Margot Siffert s'est penchée sur l'épidémie de coronavirus et sa gestion en France. Mais avant ça, on se détend un peu.
Thank you. Can't look at those eyes without sparking song. Electrify my heart.
C'était Buttercup de Jack Stauber. Il est 16h41, on est ensemble jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble.
Le dossier.
Une Chine de plus en plus isolée qui précipite la construction d'hôpitaux spéciaux à Wuhan. Une épidémie qui s'accélère avec un risque élevé à l'international. Des centres médicaux qui sont en alerte en France et ailleurs. C'est une angoisse mondiale autour du coronavirus, Margot Siffert. Il a déjà fait 640 morts, principalement en Chine, et 30 000 infectés à travers le monde, dont 6 personnes en France.
Et oui, Adrien, et pour en parler avec nous aujourd'hui, il y a Jean-Paul Stahl. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin au CHU de Grenoble et spécialiste des maladies infectieuses. Alors, avant que je vous pose des questions sur ce coronavirus chinois, on va faire un petit résumé de la situation. Fin décembre, plusieurs cas de pneumonie virale ont été constatés à Wuhan. Et c'est une semaine plus tard, le 9 janvier, que les autorités chinoises ont annoncé avoir découvert un nouveau coronavirus. Je dis nouveau car il y en a eu d'autres auparavant. Ce sont des virus particuliers car les protéines qui le composent sont en forme de couronne. Il touche de nombreuses espèces animales et pour certains l'homme. Et ces dernières années, il y en a eu deux en particulier qui ont causé de graves épidémies, Claire Guédon.
Oui, la plus connue, c'est celle du SRAS. Souvenez-vous, elle a sévi entre 2002 et 2003 dans plus de 30 pays. SRAS, c'est pour syndrome respiratoire aigu sévère. On sait que le virus est apparu dans des marchés aux animaux dans le centre de la Chine. Il déclenche des infections des voies respiratoires ainsi que des gastro-entérites et il a fait 774 morts dans le monde et plus de 8000 contaminations. Un peu plus tard, il y a eu le MERS au Proche-Orient, détecté en 2012 pour la première fois sur un Saoudien. Les symptômes sont les mêmes que le SRAS, mais le virus est beaucoup plus agressif. Sur les 2000 personnes qui ont été infectées, 813 en sont mortes. Depuis 2014, l'épidémie du MERS s'est stabilisée.
Alors, on vient de l'entendre, il a déjà existé plusieurs types de coronavirus. Donc, qu'est-ce que celui-ci, précisément ?
Alors, celui-ci, il est un petit peu différent. Dans l'arbre phylogénique, il n'est pas l'arbre, c'est-à-dire la généalogie du virus. Il est clairement différent du SARS et il est clairement différent du MERS-CoV. Ça, il n'y a pas de confusion possible. Il est lui-même très différent des quatre sérotypes, des quatre virus qui sont responsables, il ne faut pas l'oublier, du rhume. C'est exactement la même famille virale. En ce qui concerne ce virus chinois, disons que pour l'instant, on a l'impression, avec ce qu'on connaît de l'épidémie et avec les pincettes qu'il faut toujours prendre quand on regarde les chiffres venant de Chine, grossièrement 30 000 infectés, dépistés, et il y en a probablement beaucoup plus, bien entendu, qui ne sont pas dépistés, mais qui sont par presque définition qui ne sont pas graves. Et puis quelque chose comme 600 et quelques morts, ce qui nous donne une mortalité, un taux de mortalité de 1,5% sur les chiffres qu'on connaît. C'est probablement inférieur si on va rajouter tous les chiffres, tout le nombre de personnes post-symptomatiques, avec peu de symptômes, qui se promènent non diagnostiqués. Donc on a un taux qui est quand même pas énorme.
Et alors, quels sont les symptômes, justement ? Et est-ce qu'on a toujours des symptômes ? Parce que j'ai cru lire qu'un Belge, justement, avait développer ce coronavirus sans présenter aucun symptôme?
Alors, il y a un temps d'incubation, exactement comme toutes les infections virales, qui est de l'ordre, semble-t-il, entre 3-4 jours, quelque chose comme ça, où les individus qui sont contaminés par le virus ne présentent aucun symptôme et ils excrètent du virus. C'est exactement la même chose que la grippe. La grippe, et on est contagieux avant d'avoir les symptômes de grippe. C'est bien d'ailleurs comme ça que l'épidémie se propage facilement. Puisque aller se contaminer volontairement auprès de personnes malades, ça témoignerait d'une certaine perversité dans le comportement, si on peut parler comme ça. Donc, y a une période d'incubation, et puis ensuite, il y a la période de symptômes, des symptômes respiratoires. Ils ne sont pas spécifiques du tout. C'est-à-dire que c'est une toux, c'est de la fièvre, et cette toux s'accompagne d'une insuffisance respiratoire plus ou moins importante en fonction des cas, mais c'est absolument pas spécifique de ce virus. C'est un virus respiratoire. Et il faut bien comprendre que quand on regarde l'ensemble des pneumonies hospitalisées en France, il y en a grossièrement 70% qui n'ont pas de diagnostic, parce que le diagnostic, soit on n'a pas les outils pour le faire, soit il a finalement peu d'intérêt parce qu'il n'y a pas de traitement. Donc 70%, c'est finalement la réserve qu'on a pour trouver des nouveaux agents pathogènes. On peut en trouver chez 70% des pneumonies, pour peu qu'on se donne les moyens de les chercher. C'est exactement ce qu'ont fait les Chinois. Les Chinois, ils ont développé une virologie de haut niveau, pour montrer qu'en Chine, on est très fort, on est très scientifique, etc. Et puis parce que, et c'est très louable, ils développent à fond la science fondamentale, il est possible qu'il y ait derrière des intentions moins louables à développer de la microbiologie de haut niveau. Je parle là d'usage éventuellement militaire, mais ça, ce sont des spéculations. Mais par contre, ce qui est de vrai, c'est qu'ils ont une virologie de haut niveau. Et donc, ils l'appliquent. Et donc, à partir de là, ils trouvent des maladies. C'est normal, le réservoir, c'est 70% des pneumonies. Donc là, fort naturellement, ils trouvent une maladie. Mais au fil du temps, ils vont continuer à en trouver d'autres. C'est inéluctable.
Et alors là, pour revenir au coronavirus chinois, quelle est la dangerosité de cette maladie et est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque et qui vont développer, par exemple, une forme plus grave de cette maladie?
Alors, comme toujours, quand il y a une infection sur un poumon, il est clair que si le poumon est sain, tout va mieux que quand il n'est pas sain. Et donc, quand les patients sont fragilisés par une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire chronique qui est liée à toute autre chose, évidemment que si on leur ampute leur capacité respiratoire avec une inflammation virale ou bactérienne, ma foi, c'est beaucoup plus grave pour eux. Et ça, ça représente, sur ce qu'on sait encore une fois, qu'à peu près 90% des décès constatés en Chine surviennent chez les patients dit à risque. Maintenant, la gravité de ce virus, très honnêtement, pour l'instant, sur ce qu'on en sait, il est parfaitement assimilable à la gravité de la grippe qu'on constate tous les ans.
Et est-ce que ça a un sens de comparer justement ces deux maladies ou pas du tout ?
Ça a certainement un sens, même si les virus sont différents. C'est pas du tout les mêmes virus et donc les traitements, si on en valide, ne seront pas du tout les mêmes. Ce n'est pas les antiviraux contre la grippe qui vont probablement marcher sur celui-là. Ça, c'est clair. Mais par contre, le mode de transmission est parfaitement identique. Et finalement, le risque de gravité, il survient chez les mêmes personnes.
Et du coup, comment on explique du coup qu'il y a cet emballement autour du coronavirus si au final, c'est un mode de transmission qui est connu et s'il ne tue pas plus qu'un autre virus comme la grippe ?
Eh bien, ma foi, je vous retourne la question. Pourquoi est-ce que nous en parlons ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un emballement médiatique là derrière qui est par moments totalement déraisonnable et qui fait penser que l'humanité est au bord de sa disparition.
De l'apocalypse.
L'apocalypse virale, enfin, etc., etc., ce qui est parfaitement déliant. Non, c'est une maladie qu'il faut surveiller, bien sûr. C'est une maladie qui tue les personnes fragiles, c'est vrai aussi, mais c'est finalement, sur le plan symptomatique et sur le plan dissémination, une nouvelle grippe.
Alors là, on vient d'évoquer le coronavirus chinois en tant que tel. J'aimerais maintenant qu'on parle de la gestion de l'épidémie, notamment en France. Alors, comment est établi le diagnostic et quelle est ensuite la procédure ici de prise en charge?
Alors, le diagnostic, c'est assez simple. C'est-à-dire que quelqu'un qui revient de Chine, maintenant c'est Chine complet. Au début, c'était la province, mais maintenant c'est la Chine. Donc, quelqu'un qui revient de Chine avec des signes respiratoires, dans un délai de 14 jours après son retour, doit être pris en charge dans un milieu hospitalier pour l'instant, pour vérifier la gravité ou l'absence de gravité, et puis surtout pour confirmer ou pas le diagnostic, parce qu'il y a de multiples raisons de tousser, même quand on revient de Chine. Et surtout, le premier d'entre elles, à nouveau, c'est la grippe. Donc ces patients sont accueillis en milieu hospitalier. Là, il y a un test diagnostique qui est maintenant à disposition sans trop de problèmes. Si les personnes sont confirmées, ils sont mis en isolement et puis on les suit jusqu'à guérison. S'ils ne sont pas confirmés, ben, ma foi, ils rentrent chez eux. Et puis le deuxième cas de figure, c'est la personne qui a été en contact et qui a des symptômes, encore une fois, respiratoires, qui a été en contact avec un cas avéré, démontré.
Ok. Et donc là, actuellement, il y a six Français qui sont infectés par le virus, qui sont dans des hôpitaux. Donc il y a deux hôpitaux à Paris.
Ils ne sont pas tous Français.
Ils ne sont pas tous Français, exactement. Mais oui, effectivement. Et un hôpital à Bordeaux, qu'est-ce qui se passe pour... Est-ce qu'il y a un traitement qui existe? Est-ce qu'on peut tuer le virus ou pas?
Non, on ne peut pas. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement antiviral validé pour traiter ce virus. Et d'autre part, de toute façon, traiter les virus, c'est très compliqué. Mais c'est du traitement symptomatique, comme on dit. C'est-à-dire anti-inflammatoire quand il y a besoin de lutter contre une inflammation qui déborde, ventilation mécanique, donc respirateur, quand les patients sont en insuffisance respiratoire, traitement d'une insuffisance cardiaque qui peut se greffer là-dessus. On est dans ce type de traitement, et c'est vrai que c'est des traitements lourds. Quand le patient n'est pas grave, par contre, alors là, ben, il est dans une chambre tout seul et il regarde la télé.
Et alors l'OMS a quand même parlé d'une urgence de santé publique à portée internationale. En France, il n'y a pas vraiment de recommandations. Par exemple, dans les aéroports, il n'y a aucun contrôle comme dans d'autres pays, par exemple. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de vouloir à la fois lutter contre cette épidémie et de ne rien faire en France?
Alors, en France, on ne fait pas rien. Il y a quand même des contrôles aux aéroports. Mais
qui ont été rajoutés alors après d'autres pays.
Voilà, qui ont été rajoutés après d'autres pays. On est très dubitatif sur l'efficacité de ces contrôles, honnêtement. Moi, j'ai personnellement dans ma famille, du temps de l'épidémie d'Ebola, des personnes qui ont passé des contrôles dans les aéroports. Leur température était à 35 degrés, ce qui correspond à une mort imminente. Et personne n'a rien dit. Donc la fiabilité de ce type de contrôle est quand même extrêmement douteuse. Mais bon, ça permet de rassurer. Voilà, c'est déjà ça. Non, ce qui est surtout important, c'est de diffuser l'information auprès des médecins et du public. Hein. Donc toutes les personnes qui descendent d'avion en venant de Chine reçoivent un leaflet d'informations, et s'ils se retrouvent dans le cas qu'on a décrit précédemment, ils consultent dans un milieu hospitalier. C'est ça qu'il faut faire.
Alors peut-être une dernière question pour finir. Est-ce qu'on peut prédire à l'heure actuelle l'évolution de cette épidémie?
Oh, certainement, c'est-à-dire que c'est une épidémie qui va s'étendre. Ça, c'est à peu près inéluctable. C'est une épidémie qui va s'installer, c'est-à-dire que c'est un virus, on le sait, qui est maintenant installé dans l'espèce humaine et qui provoque des infections respiratoires. Bon, bah, il va falloir qu'on vive avec.
Bon, c'est le mot de la fin, voilà, qu'on vive avec.
Oui, peut-être juste une petite précision. Est-ce qu'actuellement, est-ce qu'on peut déjà envisager un vaccin ou c'est encore beaucoup trop tôt dans les procédures pour commencer à essayer de vacciner contre le coronavirus?
Alors, il y a des équipes qui cherchent un vaccin contre les coronavirus divers et variés depuis maintenant quelques temps. Il est possible que ça aboutisse, mais honnêtement, pas avant un an. Alors après, ce n'est pas le tout d'avoir un vaccin. Encore faut-il l'administrer. Et je ne vais pas faire ici une quelconque critique, mais quand même, qui se vaccine contre la grippe régulièrement?
Et du coup, ce sera le mot de la fin. Donc, je vous remercie d'avoir été en studio avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes Jean-Paul Stahl, vous êtes médecin au CHU de Grenoble et spécialiste des maladies infectieuses. Et selon vous, il y a un emballement médiatique autour du coronavirus, mais au final, c'est une maladie, un virus comme la grippe. En tout cas, ça touche autant qu'une grippe classique. En France, il y a des contrôles aux aéroports, mais on reste un petit peu dubitatif sur la réelle qualité, la réelle implication de ces contrôles. Et c'est à peu près tout.
Merci.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Il est 16h55 sur Radio Campus Grenoble et c'est l'heure du long format.
À Grenoble, Voiron et Bourgoin-Jallieu, ils sont 40 dans l'association. Tous sont bénévoles. On les appelle les écoutants.
SOS Amitié est de plus en plus connu. On a eu un gros coup de pub qui était une mauvaise pub, c'était « Le Père Noël est une ordure ». On nous en parle encore, c'est pas du tout ça.
Laurent, président d'SOS Amitié Isère, a intégré l'association il y a 10 ans et il est un peu agacé de ce cliché qui leur colle à la peau.
C'est tourné en gag, on n'est pas là avec notre tricot à faire une serpillière, quoi.
Répondre au téléphone, écouter sans jugement les personnes isolées, dépressives et parfois suicidaires, c'est ça le travail d'SOS Amitié. Dans les locaux tenus secrets de l'association, le téléphone ne s'arrête jamais de sonner et il n'y a pas qu'un seul type d'appelant, assure Laurent.
C'est pas limité aux personnes en précarité. Il y a des personnes de tout niveau financier, de tout niveau intellectuel. Personne n'est à l'abri.
Devenir écoutant exige une grande part d'engagement. Les bénévoles doivent assurer des permanence entre 18 et 24 heures par mois. Leur mission implique aussi un lourd poids émotionnel.
On se rencontre tous ensemble, on a des psys à disposition. Si on a des choses à sortir, parce qu'on ne peut pas garder tout pour nous, hein. Des fois on a besoin de partager. Ouais.
Mais cette mission apporte aussi beaucoup en termes de qualité relationnelle, assure Alain, retraité et écoutant depuis 2 ans.
C'est impressionnant de voir la puissance de la voix, d'échanger avec quelqu'un qui est isolé, qui est angoissé, et de s'apercevoir comme le simple fait d'être écouté et de pouvoir échanger, ça le rassure, ça le sécurise, ça le calme. Et alors le plus beau, c'est quand on s'aperçoit que la personne nous dit « mais je suis en train de me parler, je viens de me dire des choses », parce que c'est le but en fait. La personne, elle avance dans sa réflexion parce qu'elle est écoutée.
Pour aider les personnes à retrouver un peu de sérénité intérieure, SOS Amitié est joignable 7 jours sur 7, à toute heure du jour et de la nuit. Mais pour assurer l'intendance, l'association a besoin de plus de monde. En 2019, l'antenne iséroise a reçu 11 000 appels.
Et pour contacter SOS Amitié, un seul numéro, le 04 76 87 22 22. Il existe également un chat en ligne sur sosamitiéisère.fr. Il est 16h et presque 58 minutes sur Radio Campus Grenoble et on retrouve Paul Tilly pour le rappel des titres.
Nouvelle garde à vue pour Nordal Lelandais dans une affaire d'agression sexuelle sur une de ses cousines. Le meurtrier présumé de la petite Maïlis et du caporal Arthur Noyer est entendu en ce moment même par les enquêteurs. Vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire sur les listes des élections municipales. Les mairies sont sur le point de fermer leurs portes, mais vous pouvez encore vous inscrire sur Internet. Seule une pièce d'identité et un justificatif de domicile sont nécessaires. Tout roule pour Grenoble. La Fédération des usagers de la bicyclette place la capitale des Alpes en tête de son classement des villes françaises de taille moyenne les plus accessibles à vélo, la palme des grandes villes revenant à Strasbourg. Et le coach du 15 de France de rugby, Fabien Galthié, qui annonce cet après-midi la composition de l'équipe en vue du deuxième match du tournoi des 6 nations. Ce sera contre l'Italie. Aucun changement majeur. Seul Virimi Vakatawa blessé au biceps est remplacé par Arthur Vincent au centre. Coup d'envoi dimanche à 16h.
Merci Paul Tillier pour ces précisions. Un petit point météo maintenant. Demain, quelques nuages dans le sud Isère en matinée. Il fera moins 1 degré à Villard-de-Lans ou encore 7 degrés à Villefontaine. Dans l'après-midi, ça se dégage. Grand soleil sur le département, mais ça reste frais, entre 8 et 12 degrés. Et dimanche, ça se couvre. Un ciel très nuageux dans le nord Isère avec des températures oscillant entre 5 et 11 degrés. Voilà, il est presque 17h sur Radio Campus Grenoble. C'est malheureusement déjà l'heure de nous quitter. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction et à Louis Oscovin à la technique. Il était accompagné par Claire Guédon aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast, non pas tout de suite, mais dans quelques jours sur le site de Radio Campus. Et pour patienter, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter, @microcité. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Microcité. Même jour, même heure, mais pas dans nos locaux habituels. On sera en direct du quartier de la Villeneuve à Grenoble pour une émission un peu spéciale. Et d'ici là, portez-vous bien.